Amen. Alors, je crois qu'on est tous heureux d'être là ce matin. On pense bien sûr à tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais on a la possibilité de se réunir, alors on se réunit. Et on veut prendre ce temps pour se placer sous le regard du Seigneur. Je sais que vous le faites déjà, chez vous, sérieusement, mais quand même, quand on est ensemble, il y a quelque chose de plus. L'Église, ce n'est pas une personne toute seule. L'Église, c'est les frères et sœurs qui sont ensemble. Alors bien sûr, quand on n'a pas le moyen de se rassembler, le Saint-Esprit nous unit. Mais quand on se rassemble, le Saint-Esprit nous unit encore plus. Et on veut prendre ce temps donc de nous placer sous le regard du Seigneur avec cette bonne parole. Ce matin, je voudrais nous encourager, parce que le Seigneur veut nous dire d'avancer. Deux fois dans les évangiles, il va dire « avance ». À certaines personnes. Et c'est très intéressant de voir le contexte dans lequel il dit ça. Et ce matin, le Seigneur nous dit la même chose à nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit des temps compliqués qu'on peut s'abstenir de faire des progrès. Avec Dieu, même dans les temps compliqués, on peut faire des progrès. On peut marcher de progrès en progrès. On peut vivre des expériences avec le Seigneur et voir sa puissance se manifester. Alors on va aller dans l'évangile de Luc. Au chapitre 5, avant de lire le passage, je me souvenais d'un fait divers que j'ai lu il y a, je crois, en début de l'année, en janvier. C'était près du Havre, un homme de 38 ans qui se trouvait en volant derrière une jeune fille qui venait de passer le permis, une jeune conductrice de 24 ans. Et l'automobiliste n'était pas content. Vous savez comment c'est, quand on a le permis, on n'ose pas trop avancer, on cale, etc. Et là, il collait la jeune fille, il a collé, et il était énervé qu'elle n'avance pas. Au point qu'à un moment donné, il lui a fait des queues de poisson pour qu'elle s'arrête sur le côté. Il a cassé la vitre de la portière, et il a fait sortir la jeune fille, et il l'a tabassée. Au point qu'elle ait même le nez cassé. Un fou. Vous êtes d'accord, hein? Tout ça parce que le monsieur trouvait qu'elle n'avançait pas assez vite. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, hein? Mais heureusement, alors la jeune fille a été hospitalisée, elle va beaucoup mieux. Lui, il a été mis en prison très rapidement, il l'a retrouvé facilement. Mais heureusement que le Seigneur, il fait pas comme ça avec nous, parce qu'on n'avance pas assez vite. C'est pas du tout sa façon de faire, le Seigneur. Même quand on n'avance pas aussi vite qu'on devrait, il prend le temps. Il est plein de compassion. Il est plein de douceur. Et ça, c'est notre Seigneur. Merci Seigneur qu'il soit comme ça. Et on veut vraiment nous soumettre à sa parole. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde. » Ou certains disent « Avance en pleine eau. » « Et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire, ce contexte qui est là. Jésus est avec une foule, il est en train d'enseigner la foule au bord du lac, mais la foule le presse et donc il a du mal à pouvoir donner son message pour que tout le monde puisse l'entendre. Du coup, en voyant les barques qui sont là au bord, il va monter dans une des barques, celle de Simon, pas au hasard. Il sait très bien ce qu'il fait, le Seigneur. Il monte dans cette barque et de la barque, il va annoncer la bonne parole. Je pense déjà que la scène, on n'est plus habitué à voir la foule qui presse tout le monde. On essaie de se tenir toujours à distance en ce moment. Mais c'est même quand on est pressé, des fois c'est délicat, hein. Des fois, nous, en ce moment, on aspire à retrouver ces moments-là. Mais là, le Seigneur a besoin de se montrer dans la barque pour pouvoir annoncer cette bonne parole. Mais surtout, il a besoin d'apprendre quelque chose à son serviteur Simon. Alors, c'est pas encore son disciple, mais le Seigneur voit déjà, on a lu la parole, hein, qu'il lui donne. On voit qu'il avait déjà le plan pour Simon prévu. Il savait ce qu'il allait faire de Simon. Et le Seigneur sait très bien ce qu'il veut faire de chacune de nos vies. Il sait très bien, même si on peut passer par des temps où on est déçu. Ça vous arrive d'être déçu des fois? Simon, il était déçu et ses associés aussi, puisqu'ils ont travaillé toute la nuit. Vous imaginez la fatigue, tout ce que ça représente. Moi, j'aime bien me représenter les choses. Toute une nuit à travailler. Toute une nuit à lancer les filets, à les remettre, ils étaient mouillés, ils étaient sales, ils étaient. Et puis final, rien. Rien du tout. Pas un petit poisson, pas une petite sardine. Rien du tout à se mettre sous la dent. Et en plus, comme ils sont des travailleurs sérieux, ben ils étaient en train de nettoyer tout ça, parce qu'il fallait que ça soit prêt pour la prochaine fois. Et ils ne savaient pas que la prochaine fois allait être très rapide, par contre, hein. Mais vous voyez, rien que le fait d'être dans ce travail consciencieux, ça préparait le miracle du Seigneur. Des fois, on peut être déçu et puis dire, bon, c'est comme ça, je laisse tout tomber. Ça ne sert à rien de faire les petites choses. Au final, ça amène à rien. Mais non, restons fidèles, restons droits. Simon l'a fait, même s'il y avait de la déception, même s'il y avait toutes sortes de sentiments dans son cœur, il pensait qu'il maîtrisait, il pensait qu'il savait comment il fallait pêcher, il pensait qu'il savait à quel endroit se trouvaient les bandes de poissons dans le lac, il devait le connaître par cœur. Mais cette nuit-là, rien. On est déçu aussi parfois parce que on a peut-être fait beaucoup, beaucoup de choses selon ce qu'on pensait être bien et il y a tellement peu de résultats. Ça nous arrive à tous donc d'être déçus. Mais ce n'est pas parce qu'on est déçu qu'on doit laisser tomber. Et c'est exactement ce que Simon a fait, lui. Il a décidé que même s'il y avait de la déception, le peu qu'il pouvait faire, ben, il le mettait à disposition du Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Ben, il avait une barque vide. Il avait une barque vide. Et Jésus était là, il avait besoin d'une barque. Eh bien, allez. Ce n'est pas parce que je suis déçu que je ne reste pas à disposition du Seigneur pour que le Seigneur me dise qu'est-ce que je dois faire. Simon, je suis sûr qu'il a dit, ben, au moins ça aura servi à ça. Et il savait pas que non seulement ça allait servir à bénir la multitude, c'est déjà pas mal quand Dieu se sert de nous pour bénir plein de personnes. En plus, il était aux premières loges dans la barque, parce qu'il fallait quelqu'un qui la pilote. Et lui, il était là, celui qui entendait le mieux la prédication de Jésus, c'était Pierre, hein. Il était aux pieds du Seigneur, littéralement. Et il écoutait, et on voit dans ce passage qu'il a été interpellé. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il parle, il n'a pas la même façon de parler que les hommes de son temps. Il y avait des très bons orateurs parmi les Romains qui faisaient des beaux discours politiques. Il y avait des très bons orateurs parmi les pharisiens qui faisaient de beaux discours sur la loi, des grandes doctrines théologiques qui étaient données. Mais Jésus, quand il parlait, c'était totalement différent. Il parlait avec l'autorité spirituelle. Quand il parlait, il y avait un poids aux mots qu'il employait parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Et ça change tout. Et Pierre, qui était dans la barque, a entendu ces paroles et a laissé son cœur être travaillé. Travaillé à tel point que quand Jésus va lui dire avance, avance en pleine eau. Et le Seigneur nous invite à avancer en profondeur. Mais pour Pierre, qu'est-ce que ça veut dire avance? En fait, pour lui, à ce moment-là, ça veut dire d'abord reviens là où tu as échoué. Les eaux profondes, c'est là où il avait passé la nuit, hein. C'est là où il avait essayé de pêcher toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire, reviens là où tu as échoué, mais fais les choses comme moi je te demande de les faire. Et le Seigneur nous invite à ne pas nous laisser arrêter par des échecs ou par des déceptions, mais à retourner avec sa parole, avec son aide. Avec cette foi que lui peut changer les situations. On peut passer sa vie à faire des choses et à prendre des bonnes résolutions pour que ça change dans notre vie, Mais si le Seigneur n'est pas avec nous, ça va mener à rien. Regardez combien de fois, tous les ans, à la nouvelle année, tout le monde prend des bonnes résolutions. Cette année, j'arrête ceci. Cette année, j'arrête cela. En ce moment, c'est la mode maintenant de dire le mois sans alcool. Vous savez, il y a des personnes qui disent pendant un mois, je prends pas d'alcool. Bon, tant mieux, hein, c'est pas mauvais en soi. Mais le plus important, c'est que les choses soient faites avec le Seigneur. Quand on fait les choses avec le Seigneur, on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle année pour arrêter. Aujourd'hui, si on sait que c'est mal, ben on arrête. Et on demande au Seigneur son aide, parce que le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Simon, ce qui est incroyable, c'est que quand Jésus lui dit « avance en pleine eau », il va dire « mais » au Seigneur. Est-ce que c'est bien de dire « mais » ? Ah, je vous ai piégé là cette fois-ci. Parce que ça dépend en fait. Ça dépend où c'est qu'on met le « mais ». Parce qu'il y a des « mais » de désobéissance. C'est pour ça que vous avez dit non. Hein. Souvent, et malheureusement, c'est ce que j'entends régulièrement dans les églises, de manière générale. Mais quand on parle avec les croyants, on est là, on essaie de les conseiller, leur montrer tous les versets de la parole. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Regardez, c'est le Seigneur qui vous dit. On force personne, mais on leur présente ce que dit la Bible, la vérité. Et souvent, j'entends les gens qui disent « oui, c'est vrai, mais... » Pour moi, c'est différent, mais c'est trop difficile, mais le Seigneur ne sait pas vraiment ce que je vis. Bon, non, le Seigneur, il sait. Hein. Le Seigneur, il nous connaît parfaitement, tellement mieux que ce que nous, on sait de lui. Et sa parole, elle est vraie, elle est oui et amen. Elle ne bouge pas, elle ne change pas. Le ciel et la terre peuvent passer, sa parole demeure. Aujourd'hui, pour moi, c'est un verset qui me fait tellement du bien, parce que notre monde, il bouge dans tous les sens. Notre monde, il est secoué. Un petit virus vient bouleverser toutes les choses, toute notre société, même tous les pays de la terre. Mais la parole de Dieu demeure. Ce que Dieu dit, ça marche toujours aujourd'hui. Quand Dieu nous dit « avance en eau profonde », c'est que le Seigneur, il a un plan pour nous. Rentre dans ton être intérieur et laisse son Saint-Esprit sonder ton âme et te montrer ce sur quoi tu as besoin de revenir, là où tu as besoin de recommencer. Et le Seigneur va faire la différence. Mais Pierre n'a pas dit un « mais » d'excuse, un « mais » d'incrédulité. Pierre, il aurait pu dire justement « tu me demandes de jeter les filets, mais j'ai travaillé toute la nuit. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit à l'inverse. Vous avez remarqué ? Il a dit, on a travaillé toute la nuit, on est fatigué, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là, c'est un bon mais. C'est-à-dire que, et j'aime cette façon de dire les choses, c'est parce qu'il ne cache pas ce qu'il pense. On arrive parfois à vouloir tellement vouloir montrer une apparence bonne devant les gens qu'on cache nos faiblesses, qu'on cache nos fatigues, qu'on cache nos émotions. Alors bien sûr, il faut pas pleurer à chaque fois qu'il y a une réunion, hein, c'est pas le but non plus. Mais quand même, quand on est triste, on a le droit de pleurer. Quand on est joyeux, on a le droit de rire. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, on a le droit d'exprimer nos émotions en laissant la foi, bien sûr, canaliser tout cela pour la gloire de Dieu. Et Pierre exprime ses émotions. Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Tu sais combien c'est difficile. Tu sais, regarde mes mains peut-être qui sont marquées par les cordes du filet qui ont fait des traces. Seigneur, j'ai des plaies partout. Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, je crois que si tu me le dis, ça peut marcher. Ça, c'est la foi. La foi, c'est pas de dire « j'ai des excuses pour pas obéir à la parole de Dieu ». La foi, c'est de dire « j'ai des excuses, mais j'obéis à la parole de Dieu ». J'ai des difficultés, j'ai de la fatigue, j'ai ceci, j'ai cela qui va pas, mais Dieu me dit une parole et je la crois et je la mets en pratique. Est-ce qu'il a regretté par la suite de le faire ? Mais je suis sûr que c'était comme ça. À peine le filet a touché l'eau que les poissons ils sont arrivés tout seuls. Il a rien fait, il a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, mais la parole de Dieu. Parole de Dieu. Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est puissante ? Est-ce qu'elle est vivante, la parole de Dieu ? Oui, je le crois, je vous le dis. Je l'ai tellement vu à l'œuvre, cette parole. Quand on met notre foi dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer avec nos mots humains. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui nous aide à discerner les choses. Mais ça vaut tellement la peine de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va donner l'autorité à la parole de Jésus? Ben, ce n'est pas ses compétences en pêche. Jésus, c'est quoi son métier? Il est charpentier. Donc les poissons et le bois, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Qu'est-ce qui lui donne l'autorité? Est-ce que c'est justement le pouvoir politique? Est-ce qu'il a l'influence sur la société de son temps politiquement parlant? Non. Alors il commence à être connu puisqu'il y a la foule qui est là, qui l'a entendu parler. Ils ont dit, les pharisiens, ils nous disent des bonnes choses sur la loi, mais ils les vivent pas. Alors que cet homme-là, quand il parle, on sent que derrière, il y a Dieu qui est là. Il y a une parole, moi, qui m'a toujours ébranlé, secoué. Mais dans le bon sens, dans ces moments où Jésus va parler aux pharisiens, il va leur dire « Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu ». C'est fort quand même. Ils étaient des hommes qui lisaient la Bible tous les jours, qui l'a enseigné même, et Jésus leur dit « Vous n'avez jamais entendu sa voix ». Vous cherchez dans les Écritures pour voir tout ce qui concerne le Messie, et vous ne voulez pas venir à moi alors que je suis l'envoyé de Dieu. C'est incroyable. Comme quoi, parfois, on peut même se tromper par des faux raisonnements chrétiens, entre guillemets, qui ont apparence chrétienne, mais qui n'en sont pas du tout. Et nous devons avoir la simplicité de la foi qui prend Dieu à la lettre, au mot. Dieu me dit d'avancer. Dieu me dit d'avancer en eau profonde. Pour moi, ce matin, ça veut dire de rentrer en moi-même et de faire un point, de laisser le Seigneur sonder mon cœur. Il y a des endroits où j'ai échoué, il y a des endroits où je ne suis pas arrivé. Mais le Seigneur est celui qui veut m'aider. Le Seigneur est celui qui veut faire la différence. Et je veux mettre ma foi dans sa parole. Ce matin, frère, mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit avance. Avance, malgré le contexte difficile. Et le Seigneur est celui qui va te bénir. Deuxième passage dans Jean chapitre 20, où Jésus va dire avance, à un autre disciple d'ailleurs. Jean chapitre 20, alors là c'est carrément après la croix, après même la résurrection. Il s'agit d'un certain Thomas. On connaît tous l'histoire. Jean chapitre 20, verset 24. Vous y êtes? Je vous laisse le temps de chercher. On n'est pas pressé. Voilà ce qu'il est dit au verset 24. Donc, Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Amen. Mais on a déjà un bel échantillon. Et ce que nous avons entre les mains nous permet de fortifier notre foi. Mais il y avait ce moment-là où Thomas s'est retrouvé, lui, dans l'incrédulité. Vous savez, face à la parole de Dieu, il y a ceux qui s'excusent en disant « mais », et puis il y a ceux qui sont tout simplement incrédules. Il y a la parole de Dieu, mais je ne la crois pas. Et là, Thomas, il était comme ça. Il y avait le témoignage des disciples qui ont vu, pourtant il les connaît, pourtant il sait qu'ils ne sont pas à raconter des bobards. Il sait que ce sont des gens sérieux quand même, et ça fait plusieurs années qu'il est avec eux. Il sait que ce sont les disciples du Seigneur comme lui. Et ils ont dit, on a vu le Seigneur. Au début c'était les femmes, ils ont eu tous du mal à les croire, mais là c'est les autres disciples qui le disent. Et pourtant, malgré toutes les preuves qu'il peut y avoir, Thomas est dans l'incrédulité. Thomas prononce une parole de doute. Et parfois, quand on est dans ces moments-là Vous savez, ce qui se passe autour de nous, si on ne veille pas, ça influence notre foi, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il est dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Parce que sinon, si on ne garde pas notre cœur, ben, la mentalité de ce monde et la remise en question et toutes les théories plus ou moins farfelues qu'on entend peuvent avoir raison de notre foi. Mais si on garde notre cœur, entièrement, on reste ancré, fondé dans la parole de Dieu. Thomas, dans son incrédulité, va faire quelque chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, il le fait. Il va lancer un défi à Dieu. Si je ne mets pas mes doigts dans sa main, si je ne mets pas ma main dans son côté, alors je ne croirai point. Remarquez quelque chose quand même. C'est qu'on voit une différence entre Thomas et le peuple d'Israël. Thomas, il a lancé un défi à Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'il a tenté Dieu. Parce que l'attitude de cœur était quand même différente. Le peuple d'Israël, quand ils ont dit « Ouais, il faut que Dieu fasse comme ci, comme ça pour nous délivrer. » Mais c'était fait avec un cœur d'incrédulité qui ne croyait pas du tout que Dieu pouvait faire quoi que ce soit. Thomas, on sent qu'au fond de lui, quand même, il y avait une espérance. Et parfois, dans notre souffrance, dans notre douleur, on peut dire des choses un peu exagérées même au Seigneur. Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ce qu'il a fait? Quand même, hein, il faut oser, quoi. Il faut oser dire ça. Mais remarquez que Jésus l'a pris au mot. Il l'a pris au mot. Et je suis sûr que le plus mal à l'aise des deux, quand Jésus est apparu 8 jours après, c'était pas Jésus, hein. C'était Thomas. Quand Thomas l'a vu, il a tremblé, il se cachait derrière les autres apôtres. Il disait, j'espère qu'il m'a pas vu. Mais il savait très bien qu'il l'avait vu. D'ailleurs, il lui parle à lui précisément. Jésus réapparaît après sa résurrection et en plus il appelle nominativement Thomas, toi qui te caches derrière tout le monde, toi qui te caches derrière ton jumeau, Thomas, toi approche, avance et viens mettre ton doigt. Et il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est de me dire que mon Seigneur ressuscité, il aurait pu boucher les trous de sa main dans le corps de résurrection, non ? Est-ce que Dieu a la puissance de le faire? Moi, je crois que quand nous, on va ressusciter, on n'aura pas de marque de... Si on a une cicatrice, vous voyez, j'ai une cicatrice sur la main, je suis sûr, dans le ciel, je ne l'aurai plus. Mais je sais, par contre, que mon Seigneur Jésus, il aura toujours ses mains percées. Et alors, au début, je ne comprenais pas, mais à force, je comprends, parce qu'il veut toujours nous rappeler son amour. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu, l'amour du Christ pour nous. Et même dans le ciel, alors qu'on n'aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de douleur, Jésus aura toujours les mains percées pour nous rappeler qu'il a donné sa vie pour nous. Et que si on est là dans le ciel, c'est à cause de ça. Grâce à ça plutôt. C'est merveilleux. Et là, quand même, je me dis que ce que Thomas a demandé, c'était, même si c'était maladroit, même si c'était exagéré, c'était quand même pas mal dans la mesure où ça concernait la croix. C'est-à-dire, je veux réaliser que Jésus est vraiment mort à la croix et qu'il est ressuscité, en fait. C'est ça que ça voulait dire. Frères et sœurs, est-ce que vous ne pensez pas que pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des progrès dans notre vie spirituelle, il faut toujours passer par la croix. Et il faut toujours revenir même à la croix. Parce que je suis sûr que Thomas, même s'il était... peut-être très loin quand il a regardé le spectacle de la crucifixion, parce qu'il est dit que tout le monde a fui. Hein. Il n'y avait que Jean qui était au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus. Mais les autres disciples, ils étaient où? On ne sait pas trop. Mais je suis sûr qu'ils ont regardé quand même les choses de loin, en se cachant. Et Thomas a vu Jésus mourir. Mais là, il avait besoin de voir Jésus mort et ressuscité. Notre foi ne peut avancer que si nous croyons en un Jésus mort, mis au tombeau, mais aussi ressuscité et vivant au siècle des siècles, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand on étudie les religions et les enseignements des religions, alors c'est pas forcément très intéressant, mais ça permet d'avoir une certaine culture. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils croient tous dans des prophètes qui ont parlé, qui ont écrit des choses, mais qui sont tous morts. Il n'y a que la foi chrétienne où on croit que notre prophète, notre Seigneur, notre Messie, il est vivant. Il est vivant. Et on ne le croit pas juste parce que la Bible le dit, mais parce qu'on a vu, dans des frères et des sœurs qui ont mis leur foi en Jésus, la transformation. Je me souviens, j'ai un ami qui me racontait son témoignage et il était un jeune, donc à l'époque, il était étudiant, il faisait la fête, il sortait en boîte, il sortait avec des filles, etc. Il se droguait, enfin, toutes les choses que font les jeunes aujourd'hui, malheureusement, tous les excès. Et un jour, il se retrouve à se réveiller sur le trottoir. Il trouve que son coussin est un peu dur parce que c'était le trottoir, en fait. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il était complètement dans le pâté, excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment ça. Il savait pas où il était. Et il s'est souvenu à ce moment-là de ce qu'il avait entendu à l'école du dimanche, des années avant. Et il s'est dit, je ne peux pas gâcher ma vie comme ça. Il faut que j'aille dans une église. Et il est allé dans une église, il a entendu la parole de Dieu, il la connaissait, il avait été bercé là-dedans, mais il l'avait rejeté totalement. Mais cette fois-ci, il a dit, il y a quelque chose derrière cette parole, il y a une puissance, je vais la mettre en pratique, je vais la croire. Et bien, il a commencé à laisser la parole de Dieu le façonner, il a fait la paix avec Dieu, et il a été béni, il a été délivré de l'alcool, de la drogue, de la sexualité débridée, il a été délivré de tout ça, en peu de temps. Et même dans cette église-là qu'il a vue arriver, où il avait entendu l'école du dimanche, quelques années après, il a commencé à servir le Seigneur. Il a commencé à être formé, puis après il est allé dans d'autres églises, mais aujourd'hui il est pasteur. Mais il a cru et il a mis sa foi dans la parole de Dieu et il y a eu une transformation. Je ne sais pas, mais si vous essayez de lire n'importe quel autre livre, est-ce qu'il y a des transformations comme ça? Ça ne marche pas. Ça peut avoir un effet. Certains livres bien tournés peuvent nous faire prendre conscience. Je ne remets pas tout en cause. Mais la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, l'efficacité de cette parole qui permet à quelqu'un qui met sa foi véritablement, sincèrement, honnêtement, d'être transformé et de pouvoir avancer. Thomas, avance, avance et mets ton doigt. Mets ton doigt dans ma main. Mets ton doigt dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Vous savez, parfois, quand on demande des choses exagérées à Dieu, il faut réfléchir sur nous-mêmes. Je crois que Thomas, par rapport à ce que Jésus lui a dit, ça l'a fait réfléchir. Mais quand je regarde le peuple d'Israël, encore une fois, je fais ce parallèle. À un moment donné, ils ont exagéré. Les 10 espions, particulièrement, quand ils étaient face au pays de la promesse, ils ont exagéré. Ils ont dit... Il y a des géants, les murailles sont hautes jusqu'au ciel, on est comme des sauterelles. C'est ça qui a marqué. Hein, je dis soit ils sont marseillais, soit ils ont un peu exagéré ces personnes. Moi je viens d'Aix-en-Provence, donc je sais de quoi je parle. Mais ils exagèrent, pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité. Parfois l'incrédulité nous amène à exagérer, à voir les choses, elles ne sont pas comme ça les choses. Et puis même si elles sont comme ça, qu'est-ce qu'ils avaient avec eux? Ils avaient Dieu. Dieu leur dit, allez conquérir le pays. Je serai avec vous. Jusqu'à présent, je vous ai délivré d'Égypte, je vous ai nourri dans le désert, etc. On pourrait faire tout le listing de ce que Dieu a fait. Vous n'avez pas eu les vêtements usés, pas les chaussures, vous n'avez pas été malade pendant 40 ans. Donc, ne vous inquiétez pas. Et malgré tout ça, les 10 espions... Enfin, c'était pas pendant 40 ans, puisque c'est à suite à ça que les 40 ans se sont passés. Mais jusqu'à tout ce cheminement depuis l'Égypte jusqu'aux portes de Canaan, Dieu était là. Et Dieu allait continuer d'être là, sauf que l'incrédulité les a fait voir les choses exagérées. Et ils ont perdu 40 ans. Et même certains, ils ont perdu la vie. Puisque s'ils ont tourné 40 ans dans le désert... C'était pour que toute la génération qui était sortie d'Égypte ne profite pas de ça. Vous voyez comme quoi l'incrédulité, ça coûte cher. Il vaut mieux dire « Seigneur, je suis faible, Seigneur, je suis petit, Seigneur, je ne comprends pas tout, Seigneur, je suis fatigué, mais sur ta parole, je vais faire quand même les choses. » Et je crois que Thomas, quand il est venu s'approcher du Seigneur, je ne sais même pas en fait s'il a osé toucher. J'essaie de me représenter, mais je ne suis pas sûr qu'il a osé même toucher. Peut-être que le Seigneur l'a encouragé quand même à le faire, Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un progrès dans sa foi. Parce que comment est-ce qu'il voit le Seigneur? Il ne le voit pas juste comme un prophète, comme le maître. Il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Quoi? Il dit « Dieu à Jésus ». Dieu est-il Jésus est-il Dieu? Alors, vous savez, c'est une question qui est doctrinale aujourd'hui, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Hein. Il y a des religions, pseudo-religions, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais Thomas, après avoir passé cet instant, après avoir touché le Seigneur, après avoir réalisé l'œuvre de la croix, Thomas va faire cette confession, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est vivant, Jésus n'est pas un simple homme comme les autres, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus a la puissance divine. Et si je mets ma foi dans sa parole, si je mets ma foi dans ce que j'entends ce matin, dans ce que le Seigneur nous dit, les choses vont changer. » Je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir faire un progrès dans ma foi, je vais pouvoir voir une différence, parce que la parole de Dieu a plus d'efficacité, beaucoup plus que celle d'un homme. Ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas un discours philosophique, ce n'est pas des paroles bien agencées intellectuellement parlant, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, a dit le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons, à l'exemple de Simon-Pierre, à l'exemple de Thomas, ne pas laisser les excuses ou l'incrédulité qui pourrait être là nous empêcher d'avancer, mais est-ce que nous voulons au contraire saisir cette parole et la prendre? Je me souviens de Samuel qui a dit qu'il laissait tomber à terre aucune parole. Aucune parole. Seigneur, me parle, je ne veux rien laisser à terre. Laisser tomber à terre. Je veux tout attraper et serrer contre mon cœur. David a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, on pourrait multiplier les exemples, mais je ne veux pas le faire, je veux m'arrêter là. Mais je veux qu'on puisse prendre le temps de prier ce matin, de prendre ce moment devant le Seigneur. Je vais demander aussi aux musiciens si vous pouvez vous préparer. On va reprendre le dernier chant, mais qu'on puisse laisser ce temps au Saint-Esprit de nous sonder, croyant que le Seigneur est fidèle, croyant que notre Seigneur est tout-puissant. Oui, nous vivons des temps difficiles, on le répète. Oui, nous pouvons avoir des excuses. Humainement parlant, oui, mais le Seigneur nous parle. Est-ce que sa parole est plus grande? Est-ce que sa parole a la priorité? Est-ce que sa parole a l'importance, le plus dans notre vie, ou est-ce que ce sont les discours, les raisonnements de ce monde qui nous influencent? Frères et sœurs, plaçons-nous aux pieds du Seigneur. Approchons-nous de notre Jésus. Croyons que ce matin, il est présent dans ce lieu et que c'est ça qui change tout. Notre réunion n'aurait aucun sens, aucune raison d'être si Jésus n'était pas au milieu de nous. Ces moments de rassemblement ne serviraient à rien si Jésus n'était pas là. Mais il est là. Sa parole est vraie. Il est vivant. Sa parole est vivante et efficace pour nous permettre que nos cœurs soient sondés, que les choses mauvaises peut-être dans notre cœur soient révélées. Parce que le Seigneur veut que nous puissions grandir. Mon frère, ma sœur, avance ce matin. Avance. Laisse le Seigneur te conduire. Saisis sa main ce matin et avance. Ne laisse rien dans ce monde te retenir, mais avance. Ne laisse pas les choses de la terre être comme des liens qui te retiennent en bas, mais avance, marche. Marche par la foi vers ton Seigneur. Oh, je te bénis, Éternel, parce que je sais que tu es puissant. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as permis que ces moments se fassent encore, Seigneur. Et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là. Mais la joie est encore plus grande parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui nous parle. Tu es le Dieu qui nous révèle ces choses cachées dans ce monde, Seigneur. Mais que ton Saint-Esprit nous montre avec les yeux de la foi. Oh Seigneur, nous ne voulons pas te multiplier des excuses. Nous ne voulons pas tomber dans l'incrédulité. Mais nous voulons, Seigneur, simplement et humblement avancer avec toi, faire ce que nous devons faire, obéir à ta parole, mettre en pratique tes commandements et voir ta puissance se manifester, Seigneur, parce que c'est ce que tu as promis. Ta parole, Seigneur, sera accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Alors, Seigneur, nous avons soif. Oh, nous ne voulons pas voir ces choses, oh Seigneur, juste pour les voir, mais nous voulons voir ces choses parce que nous croyons qu'elles accompagnent ta parole quand elle est annoncée avec vérité et droiture. Quand la foi est présente, alors tu fais cela, Seigneur. Tu connais ce matin celui qui est fatigué, tu connais celui qui est chargé, tu connais, Seigneur, celui peut-être qui est à la limite de baisser les bras, mais tu es le Dieu qui veut renouveler par ton Saint-Esprit, Seigneur, l'élan dans le cœur. Tu es le Dieu qui veut, Seigneur, consolider la foi, fortifier la foi par ta grâce. Alors fais-le dans ces instants. Et alors que nous allons lever les mains en signe de foi, Seigneur, nous croyons que tu vas faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Amen.